Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chef d'entreprise, artiste sportif, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Et pour ce 80e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Novel, spécialiste des alternatives écologiques et sociales, des médias et de leur traitement des questions environnementales. Alors avec Anne-Sophie, on parle de son parcours, de ses déclics, à la fois celui pour devenir journaliste et celui pour se consacrer aux enjeux environnementaux dans son métier, de ses expériences qui l'ont marqué, ce pourquoi elle s'engage depuis plusieurs années et comment on peut mieux s'informer. Alors on aborde également son activité d'écrivaine et de réalisatrice, car vous verrez, Anne-Sophie est pleine de ressources, d'envie et de belles idées. Un beau moment de partage qui invite à la curiosité. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi, je suis très contente d'être là.
Et ben moi je suis très contente de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Alors je m'appelle Anne-Sophie Novel, je suis dans la région bordelaise, maman de deux enfants. Et à titre professionnel, je travaille comme journaliste spécialisée sur les questions d'environnement, de climat, de vivant. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur notre rapport à l'information et sur le traitement médiatique de l'actualité écologique. Voilà.
Yes, on va revenir sur tout ça. Alors, c'est compliqué de revenir sur tout parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on va essayer de revenir sur une grande partie de tout ça. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ?
Je voulais être météorologue.
Okay.
Ouais, j'avais déjà la tête dans les nuages, mais j'ai changé d'avis quand j'ai vu qu'il y avait trop de maths. En fait, ça m'a découragée, il fallait aller à Toulouse et tout. Enfin, voilà, ça, c'est le côté matheux m'a rebutée, mais finalement, il y avait déjà un lien avec, avec le climat, même si la météo n'est pas le climat. Voilà, il y avait déjà une petite préoccupation, on va dire.
Ouais, complètement. Et alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait comme étude pour le coup ? Tu as un peu bougé pendant tes études aussi.
Oui, après le bac, j'ai fait une prépa. Après 2 ans de prépa, j'ai été à la fac à Bordeaux, à Bordeaux 4. J'ai fait un magistère d'économie et finances internationales qui m'a emmenée en Erasmus en Écosse. J'ai aussi fait un petit tour à l'université de Berkeley. Et à mon retour, je voulais terminer mes études à Paris. Donc, j'ai fait ce qu'on appelait un DEA, donc un master recherche à Sciences Po. Ouais. Je suis rentrée à Sciences Po par l'école doctorale et j'ai enchaîné sur une thèse, comme si ça suffisait pas. Mais voilà, en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais me garder le plus de portes ouvertes. J'ai adoré l'université, mais après une prépa, en fait, j'avais l'impression d'être en mode un peu touriste. Après, la thèse, c'était vraiment beaucoup de curiosité, une façon de travailler, d'aller en profondeur dans les choses. Donc, le journalisme me titillait depuis le début, mais je m'étais dit, commence par faire autre chose. Comme ça, tu auras une autre casquette, parce que c'était pour moi un peu une voie de garage quand même, le journalisme, un peu compliqué. Ouais. Donc, je suis journaliste sans avoir fait d'école, mais comme beaucoup de journalistes, mais avec ce prisme, en fait, on va dire, d'économie. Économiste au départ.
Ouais. Et puis surtout, tu as fait un PhD en économie et economy and terrorism. Et terrorisme. Quand j'ai vu ça, j'étais là.
J'avais 20 ans lors des attentats du 11 septembre. Ouais. Ça m'a réveillée en mode mais comment. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je pense que je ne m'étais pas assez préoccupée de ces histoires du monde. Cette question du terrorisme n'était pas entrée dans ma vie avant. Et je me suis demandé aussi comment l'économie pouvait se remettre d'un tel séisme aussi vite. Et cette question m'a suivie. Donc, quand j'ai décidé de faire une thèse, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de travaux, surtout en France, sur la question. Et donc, j'ai étudié cette question pendant un peu plus de 4 ans et demi. J'en avais marre à la fin. Et c'est là aussi, surtout, que j'ai aiguisé ma vision des choses. C'est-à-dire que déjà, pendant mon parcours à la fac, la question des injustices sociales me préoccupait beaucoup. La question du commerce et de la finance internationale que j'avais étudiée, étudiée et que je trouvais forcément biaisée et injuste. Et surtout, avec le terrorisme, c'était se rendre compte qu'il y a plein de causes de conflits qui sont liées à des causes environnementales. Et je me suis fait la promesse, après ma thèse, de dédier ma carrière à voilà, la vulgarisation de ces enjeux.
Ok.
Voilà.
D'accord. Et donc, alors, parce que c'est vrai que j'ai envie de comprendre, à la fois, pour moi, il y a effectivement deux choses. Il y a à quel moment tu as eu le déclic pour le journalisme et à quel moment tu as eu le déclic écologique, j'ai envie de dire.
L'envie de faire du journalisme est arrivée assez tôt, ouais. Mais là encore, je l'avais mise de côté. Et en fait, elle est venue à moi par la force des choses. C'est-à-dire que pendant ma thèse, je faisais de la veille le matin, je lisais les news, j'envoyais ça à mes proches et un jour je me suis dit je relais que des informations sur des sujets qui m'interpellent et qu'on voit très peu à la une et donc j'ai cherché à créer un support pour partager ma veille plus largement. Aujourd'hui on créerait un podcast comme tu fais ou une chaîne YouTube ou TikTok où on se mettrait à être sur Twitch à streamer, mais là moi j'ouvre un blog et je l'appelle À l'évidence et là je rentre dans une communauté de blogueurs qui commencent à prendre la parole et de fil en aiguille j'aiguise mes connaissances, donc j'ai un peu en autodidacte en fait, je me suis fait une culture à côtoyer les pensées des économistes atterrés, d'attaque, des trucs très alternatifs. À l'époque, il ne faut pas oublier qu'on a eu à l'OMC les premières grosses manifs altermondialistes aussi qui ont marqué la fin des années 90-2000. Et moi, j'ai baigné là-dedans avec plein de penseurs de ce type, Joseph Stiglitz ou autres, qui dénonçaient un peu le système économique. Mmh. Et donc, c'est le fait de bloguer, d'écrire tous les jours sur ces questions qui fait que c'est toujours un effet de spirale, un effet cliqué où on approfondit sa connaissance des choses. Et puis, l'esprit blog, pour moi, c'était aussi toujours redonner aux autres. Mmh. Et fonctionner de manière très collaborative, très horizontale. Et donc, j'ai créé une association en 2008 pour promouvoir un petit outil que j'avais créé, gratuit, qui se téléchargeait en 2 secondes et qui donnait en barre de favoris un ensemble de ressources web où les gens pouvaient aller s'informer sur ces questions avec des médias spécialisés sur l'écologie, pouvaient aller trouver d'autres blogueurs, donc pareil, là c'est un mode d'échange, des sites d'associations pour s'engager et des sites commerçants qui proposaient justement de quoi agir au quotidien différemment. Et en fait, autour de moi, il y a plein de blogueurs qui se sont agrégés. On a créé cet asso et puis elle existe toujours. On l'a rebaptisée depuis. Donc l'outil s'appelait Ecolo Info. Place to Be est né après le moment de la COP21. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Et du coup, les gens sont venus voir parce que j'étais identifiée. Il y avait peu de monde en fait qui en parlait. On n'était vraiment pas nombreux. Quand j'ai créé Ecolo Info, il devait y avoir 600 sites. On l'a maintenu pendant 2-3 ans. À la fin, il y avait plus de 1400 sites. C'était impossible. Et puis il y avait toujours des débats parfois sur intégrer une ressource ou une autre. Mmh. Et elle a généré des millions de clics, cette barre d'outils, parce qu'en fait elle est arrivée au moment où Sarkozy a décrété, suite à l'Alliance pour la planète, le Grenelle de l'environnement. Mmh. Et donc il y a plein de journalistes qui s'en sont servis pour aller trouver des ressources qu'ils ne connaissaient pas. Alors ça, il y a toujours cette question du traitement médiatique de l'écologie qui reste toujours insuffisant, mais en tout cas, on a commencé à venir me voir pour ça, et donc le fait de bloguer, le fait d'avoir fini ma thèse, le fait de suivre forcément de manière un peu plus activiste ou militante ces sujets a fait qu'à un moment, je me suis dit, en fait, j'ai tout entre les mains. Mmh. J'ai pas fait d'école parce que j'ai rencontré Pierre Aski de Rue 89 un jour à qui je dis écoute, je suis en train de finir ma thèse, j'écris depuis maintenant 3 ans sur ces sujets, est-ce que tu crois que je dois faire une école pour me mettre à jour? Il m'a dit non, viens dans la rédac, on va te prendre un peu avec nous, on va mettre à jour ton écriture, on va te montrer un peu comment on fonctionne et je pense que ça ira. Et en fait, du coup, j'ai passé un petit peu de temps à Rue 89 avec Sophie Kaya qui était journaliste spécialisée sur ces questions et donc voilà, j'ai commencé comme ça à travailler en tant que journaliste.
Ok, d'accord. Donc effectivement, ça s'est fait un petit peu, alors, pas par hasard non plus, parce que
en fil de l'eau. Enfin, je me suis débrouillée. Ouais. C'est-à-dire quand on n'a pas fait d'école, on n'a pas la carte de presse. Et la carte du diplôme. Donc c'est plus compliqué que pour ceux qui arrivent avec ce réseau-là, en gros, qui s'achètent quand on fait l'école. J'étais écolo. J'étais une jeune femme. Donc en fait, ces trois barrières-là ont fait que et en même temps. J'ai pas compté mon temps, c'est un sujet qui me passionne, qui m'anime. Et donc, je me suis toujours débrouillée pour gagner ma vie et garder du temps pour travailler sur ces sujets. Et de fil en aiguille, bah, les choses se sont faites. On est venu me voir, voilà, Eric Fotorino est venu nous voir du vin. Après, j'ai travaillé avec Le Monde, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, pour plein de supports très différents. Et voilà, c'est chouette, je me sens pas, j'ai de la chance.
Oui, complètement, parce que tu as réussi au final, et tu le disais tout à l'heure, une voix de garage, de journaliste, comme je le pensais avant. Et aujourd'hui, c'est ta voix principale. Et
ma plus grande fierté, figure-toi, c'est, comme je te disais, j'ai pas fait d'école. Mais ouais. On est venu me voir pour enseigner le journalisme environnemental dans les grandes écoles de journalisme en France. Et ça, c'était pas gagné. Et ça a commencé il y a l'an dernier. C'est-à-dire qu'on est au 21e siècle et qu'on a attendu 2020-2021 pour commencer à enseigner le journalisme environnemental. Donc moi, qui étais dans cette quête de dire « il faut en parler plus », là, je suis très fière de ça. Mais ça suffit pas encore, en fait. Et j'ai plein de questions sur est-ce que ça suffit d'être informé ? Est-ce qu'il faut pas aller plus loin parfois ? Ça, c'est un vaste champ de réflexion.
Alors, beaucoup, j'ai envie de te poser la question, mais qu'est-ce qu'il y aurait après, alors ? Si ça suffit pas d'être informé,
C'est bien de délivrer de l'information. Après, se pose la question de la nature de l'information qu'on délivre. On est tous différents, on a des réactions très différentes, qu'on soit novice sur ces sujets ou plus aguerri. Le type d'information dont on a besoin, celui qui va nous faire réfléchir et agir, est différent. Et puis au-delà de ça, quand on parle avec les scientifiques, ils sont un peu désespérés parce qu'ils savent que les décideurs sont au courant des enjeux, mais n'agissent pas pour autant. Donc moi, ma question, elle est là. Elle est dans ce gap qu'il y a là. C'est pas parce qu'on sait et qu'on est informé qu'on agit. Et donc, où est le curseur et quoi faire voilà, à part prendre le pouvoir en étant très informé sur ces sujets. Ouais. Voilà. Mais donc, on peut accuser les journalistes de mal faire leur travail, mais je me dis, même si on le faisait à fond, il y a peut-être un autre levier à activer et que je n'ai pas encore identifié. Mais voilà, je pense que si chacun investissait les zones de pouvoir avec ces convictions-là, ça participerait à cette prise de conscience. Et en même temps, je crois beaucoup à la jeunesse qui aujourd'hui a grandi avec cette préoccupation, avec 80% des Français qui veulent qu'on agisse à ce niveau-là. Mais il ne faut pas toujours attendre des autres. Il faut aussi faire sa part et continuer à en parler. Mais voilà, il y a plein de leviers à activer. Et voilà, la Convention citoyenne pour le climat a été la preuve parfaite que des gens non informés qui devenaient informés demandaient certaines mesures qui n'ont pas été suivies dans les faits par l'action politique et publique. Donc ça pose vraiment des grosses questions en termes de fonctionnement démocratique. Et en même temps, quand les gens votent, ce n'est pas forcément les sujets qui les animent. Ouais. Et là, j'attends la prochaine présidentielle, mais les gens ne vont pas voter avec ce curseur dans la tête. Donc on risque d'avoir Macron ou pire, qui a le pouvoir, ce que je ne souhaite pas. Mais je veux dire, ce n'est pas des gens qui sont animés de ça. Et Macron, quand je regarde, je me dis, mais on a 2-3 ans d'écart. Comment se fait-il que quelqu'un de sa génération ne capte pas les enjeux ? Ça paraît, c'est gros point d'interrogation.
Complètement. Et puis surtout quelqu'un d'informé. Enfin, pour le coup, et puis.
Oui.
Enfin, malgré tout, il est arrivé là parce
qu'il. Pas avec les mêmes convictions, ça c'est certain.
Oui, ça c'est sûr. Ouais. On reviendra sur tout ça. Parce qu'en plus, là, on enregistre juste après que le rapport du GIEC nouveau soit sorti.
Oui.
Avec une actualité aussi internationale, notamment dans l'Europe de l'Est, qui est aussi. Enfin, donc là, je recoupe plutôt avec l'information et non pas l'écologie, mais. Mais voilà, il y a plein de choses. On y reviendra petit à petit. Et tu avais dit, alors j'ai vu plusieurs fois, tu as fait un TEDx aussi à La Rochelle il y a 4 ans. Ouais, il y a longtemps, il s'est passé plein de choses depuis. Mais j'aimais bien ce que tu avais dit, j'essaye de vendre du bio pour les canards. Je trouvais ça. Tu as fait plein de jeux de mots pendant cette conférence, c'était génial. Et autre chose aussi, mais alors je vais faire 4 questions en une. Habituellement, j'en fais 3 en une, donc je vais essayer de réduire tout ça. Je vais plutôt aller sur celle que j'avais en tête depuis tout à l'heure. Quand tu t'es lancé, si tu as lancé tous ces blogs, pourquoi tu l'as fait en fait ? Parce que toi, tu n'arrivais pas à avoir de l'information qui te convenait. Et aussi parce que tu avais déjà, j'imagine, cette envie de diffuser de l'information auprès d'un maximum de monde. C'est ça qui te... Enfin,
oui.
Qu'est-ce qui t'animait à ce moment-là ?
Je pense que quand on comprend ces sujets... on est changé à tout jamais. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe où on change de regard et on progresse tous les jours dans cette conviction et chacun a sa porte d'entrée. Voilà, c'est très, très différent. On a une sensibilité différente en fonction de son parcours, de son milieu social, de sa culture, de son éducation. Et moi, de fait, je me suis dit, mais c'est pas possible que les gens ne soient pas plus conscients de ce qui se passe et il faut absolument les informer. Donc, le premier réflexe, ça a été ça, c'est se dire, moi, c'est l'information qui me plaît, je veux informer pour que les gens sachent. Voilà, mais depuis 15 ans que je fais ça, j'ai vraiment aujourd'hui, je me dis, j'adore ce que je fais, je continuerai à le faire, mais j'ai eu des moments de lassitude, ça va, ça vient, ça on s'y fait, c'est comme les cauchemars, voilà, c'est pareil, mais c'est plus Le fait de se dire, est-ce qu'on a besoin de convaincre tout le monde pour agir ? Est-ce qu'on a le temps, en fait ? Je ne crois pas, il y a une urgence. On a toute l'information pour le faire, ça ne va pas être facile, il ne faut pas mentir, voilà, un principe d'honnêteté. Il faut activer les bons leviers, il ne faut pas que ce soit inégal et injuste socialement. C'est là. Et puis c'est des sujets complexes en fait, à tout niveau, donc à la base ils demandent du temps, mais ça fait 50 ans maintenant qu'on en parle. Donc voilà, moi je m'en suis emparée sous ce prisme-là, et c'est un métier formidable parce que du coup je suis amenée à rencontrer des gens qui agissent à tout niveau, dans le monde associatif, dans le monde entrepreneurial, dans le monde politique, dans le monde et institutionnel, et du coup y a plein de gens qui s'emparent aussi de ces questions à leur échelle. Et quand on dit faire sa part, c'est qu'un chef d'entreprise qui a une grosse boîte, quand il fait sa part, ça change la donne, et que même quelqu'un qui se sent impuissant dans son coin ou même qui n'a pas de boulot peut faire sa part. Le temps associatif a une grande, grande valeur. Le monde de l'économie sociale et solidaire aussi, alors qu'il est moins valorisé. Et ça, c'est des richesses qui, mises bout à bout, permettent de changer la donne aussi. Donc voilà, ça, c'est, je suis riche de ces rencontres-là et de voir qu'en fait, maintenant, ça jaillit dans tous les sens. voilà, toujours cette frustration de se dire ça suffit pas, parce que dans la loi, dans les textes, par chez moi, je vois que ces habitudes-là ne font pas, on va dire, ne font pas légion. Mais je sens quand même qu'il y a une... C'est plus pareil qu'il y a 15 ans ou c'est pas pareil qu'il y a 50 ans.
C'est clair. Et justement, alors moi, en préparant cette interview, j'ai vu plein de choses. Et tu as fait sur les 15 dernières années, pardon, énormément de choses. J'avais envie de revenir, parce que tu en as un petit peu parlé, de Place to Be à la COP21 que tu as mis en place. Si ça te va, d'ailleurs.
Bien sûr,
et encore une fois, de toute façon, je te laisserai la parole libre à la fin de cet échange. Pourquoi t'as... Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que tu as voulu faire en fait à ce moment-là?
Alors, Place to Be, c'est né d'une idée simple et d'une expérience que j'ai eue en allant suivre, justement, avec ce blog collectif qui était Ecolo Info en 2009, la conférence de l'ONU sur le climat qui a eu lieu à Copenhague. Donc, c'était en 2009, la COP15. Et je me retrouve en allant là-bas dans un bar qui a été privatisé par, je crois que c'était l'ONU et la fondation Google, et ils avaient mis en place une connexion Internet, une petite programmation le soir qui permettait d'être débriefé par des têtes de réseaux d'ONG, ou des journalistes, ou quelques experts, de ce qui s'était passé pendant les négociations climat, parce que c'est quand même un sujet ardu à suivre. Et là-bas, j'ai rencontré Naomi Klein, j'ai rencontré Georges Monbiot, j'ai rencontré le DG international de Greenpeace. Enfin, j'ai passé 15 jours à travailler, à faire la fête. ouais, c'était un moment très fort dans ma vie. Et voilà, et j'ai rencontré des blogueurs du monde entier. C'était les débuts de Twitter. Il faut se rendre compte que, voilà, au début, on n'avait pas ces outils-là. Et donc, on s'en emparait et on savait qu'on pouvait faire média à nous tous ensemble.
Ouais.
Et donc, quand la COP21 arrive en France en 2015, j'en parle avec un ami au Monde qui m'explique que le Monde est sollicité pour être partenaire d'un événement au Grand Palais. Et je lui dis, mais tu sais, Paris va respirer au rythme de la COP. Et donc, il y aura le Bourget où il y aura les négociateurs. Mais il y aura aussi donc le Grand Palais où vous êtes invité avec le Monde des entreprises. Il y aura des QG alternatifs. Et je lui dis, et d'ailleurs, ce serait bien qu'on ait un QG pour les médias. Et en disant ça, pouf, il y a une espèce d'ampoule qui s'allume dans ma tête. Je me dis, qui va s'en occuper d'ailleurs? Et donc le soir même, je recontacte les blogueurs de l'époque à Copenhague. Il y avait une liste de diffusion et je leur dis, voilà, je suis à Paris maintenant. Si on lançait une idée de QG comme le Fresh Air Center à Copenhague, est-ce que ça vous dirait? Et là, j'ai reçu une trentaine de réponses de gens ultra enthousiastes. Je dis, banco. Ouais. J'ai contacté trois copains et je leur ai dit, j'ai un projet un peu fou. On a un an et demi devant nous à l'époque. Mais je pense que ça sera important. Et en fait, les choses se sont faites, j'ai envie de dire, sans aucun accroc. C'est-à-dire que très vite, on a fait des apéros tous les mois. On a réuni du monde en disant, on veut créer un lieu sur la ligne du RERB qui emmène au Bourget, mais dans le centre de Paris pour que ce soit accessible à tous. On veut accueillir du monde, des gens du monde entier, faire une grosse prog, etc. Et en fait, les gens sont venus nous aider. Un ami journaliste m'a dit, j'ai vu un lieu rue de Dunkerque à côté de la gare du Nord, parfait. un sport bar avec une auberge de jeunesse. On a été les voir au premier rendez-vous. Ils nous ont dit oui, on accepte votre projet. Enfin, tout s'est fait comme ça. Ouais. Donc, j'ai trouvé un directeur associé qui est un super pote qui m'a dit, écoute, moi, l'événementiel, j'adore, l'organisation associative, je kiffe. Donc, on a fait un super duo et puis on a recruté une vingtaine de personnes. On a eu 200 bénévoles et au total, 15 000 personnes qui sont venues à ce moment-là sur les 15 jours. On a logé 800 activistes, voilà. Et c'était un lieu où il y avait tous les jours de quoi voilà, échanger, manger, faire la fête. Mais surtout, tous les soirs, on a repris cette idée de faire un briefing. Donc, on avait fait une prog très, très organisée. On avait fait une creative factory pour que les gens travaillent sur la notion de récit. Donc, par 48 heures, ils avaient une thématique donnée. Et puis, c'était un espace de coworking et d'échange. Donc, on était un lieu qui faisait média. C'était le lieu médium et où on accueillait des gens qui avaient des casquettes différentes et qui pouvaient ensemble imaginer autre chose. Ouais. Et tous ceux qui ont vécu cette expérience me disent que ça les a marqués à vie aussi. Donc, c'était ma façon à moi de reproduire quelque chose qui m'avait marqué et de semer une graine chez les autres aussi. Ouais. Et c'est vrai que, bon, bah voilà, on a l'association Place to Be existe encore. Mm-hmm. On a continué à faire quelques études, voilà, mais l'idée, c'était pas de le faire à chaque COP. C'était aussi que les COP dans chaque pays essayent d'organiser par elles-mêmes ce type de rencontre.
Ouais, ça devait être génial.
Ah oui, c'était...
ça devait être c'était au bout de 15 jours, tu devais être HS, mais ça devait être génial.
J'ai passé une semaine enfermée à faire que travailler et boire des coups et rencontrer du monde, mais je sais que ça ça a fait quelque chose.
Mm. Ouais. Alors pour le coup, donc tu l'as dit, t'as été ou t'es encore journaliste pour plein de médias différents, donc Le Monde, Public Sénat, France 2 aussi de temps en temps, depuis très peu Vert,
oui,
le média.
Une petite équipe de Vert qui est venue me voir.
Exactement, bah vas-y, on est dessus, alors on parle de ça.
En fait, en tant que freelance, j'ai travaillé pour plein de supports différents, c'est ça le propre du journaliste à la pige. Et du coup, je me suis toujours donné la liberté de travailler sur ce qui me plaisait, ce qui me motivait, donc ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et Vert, ils sont venus me voir en fin d'année dernière en me disant on cherche à étoffer l'équipe et moi j'étais en train de leur dire bah écoutez, je sors d'une grande enquête, je sais pas trop ce que je fais, et je leur ai conseillé quelques journalistes. Et en fait, ils sont venus me voir début janvier, ils m'ont dit mais en fait c'est avec toi qu'on fait travailler. Ah, je dis ah, c'est drôle ça, bah écoutez, banco. Et ça me fait du bien en fait, parce que je suis sortie là d'une grosse enquête sur notre rapport à la nature et au vivant. J'ai travaillé avec une revue suisse qui s'appelle La Salamandre et le réseau des colibris.
Yes.
Donc
qui
pendant deux ans,
sortir,
il sort le 9 mars.
Yes.
Et donc, c'est une superbe aventure, on pourra en parler, mais ils m'ont fait un cadeau là aussi. Donc j'ai eu un temps long, énorme, parce que quand on donne, voilà, au départ c'était un an, puis avec le confinement, ça a duré un an et demi l'enquête, où j'ai pu vraiment prendre le temps, aller sur le terrain, etc. Et Vert, on est dans la production d'une quotidienne, donc ça me change le rythme, ça me stimule différemment. Mm-hmm. Et avec un petit média qui monte, avec une très belle équipe, et puis l'envie de, pareil, d'informer avec un digest que les gens peuvent recevoir par mail, un site web, et puis plein de belles choses à venir. Donc voilà, je fais confiance normalement à la vie. Je touche des lapins de singe, je dis quoi. Mais voilà.
C'est trop cool. Et on va revenir sur justement ce qui va sortir alors le 9 mars, mais je pense que je sais pas, notre épisode sera déjà peut-être sorti,
peut-être,
bon, on verra. Je sais pas, en tête.
C'est dans une semaine.
Exactement.
Exactement, mercredi prochain.
Oui, mais peut-être qu'il sortira la semaine suivante,
on verra.
Donc il sera peut-être déjà sorti. Et si c'est le cas, dans tous les cas, allez le voir.
Ça s'appelle L'Enquête Sauvage.
Yes.
Et donc c'est l'édition Salamandre et avec une coédition avec les Colibris. Mm-hmm. Et si tu veux que j'en parle un peu, je
ouais, vas-y, bon, c'est pas grave. Habituellement, je fais ça de manière chronologique, mais là, il y a tellement de choses que je vais pas y arriver, donc vas-y.
En fait, je sortais d'une grosse enquête sur les médias quand La Salamandre et les Colibris viennent me voir en me disant « Écoute, on veut lancer une collection d'ouvrages qui s'appelle Aventure pour le changement et on aimerait confier ça à chaque fois à un journaliste pendant un an sur un sujet. » Et ils m'ont dit « Ton profil nous intéresse au regard de ton parcours et on aimerait là explorer la notion de nature. Et c'est quoi reconnecter avec la nature ?» Et je leur ai dit « Ça tombe bien, je sors de cette enquête. Le confinement venait d'être déclaré. J'étais en train de me poser. Je ne savais pas trop, là encore, ce sur quoi j'allais me mettre. » Et ce n'est pas un sujet que j'avais exploré. C'est-à-dire, je suis au courant des rapports qu'il existe sur la biodiversité, sur l'extinction des espèces. C'est des choses dont on sait parler quand on est journaliste, qu'on connaît scientifiquement. Mmh. On a des alertes. Mais je n'avais pas forcément cultivé une sensibilité à ça. C'est quoi être sensible au vivant ? C'est quoi un naturaliste qui pense avec ses tripes et qui se sent appartenir à ça ? J'avais pas voilà, mon mec l'a beaucoup plus, par exemple. Et lui, il se bat depuis toujours là-dessus. Et moi, je comprenais pas pourquoi il souffrait dans le béton des villes, pourquoi c'était pas viscéralement ancré en moi. Et avec cette enquête, ça a été l'envie de me dire, je vais essayer de comprendre. Parce qu'il y a plein d'appels aujourd'hui de Baptiste Morisot à Vinciane Després, à un certain nombre d'experts et de philosophes qui nous disent c'est important de se reconnecter. Mais je me suis dit, moi, je bosse, je suis mère de famille, j'ai pas beaucoup le temps, j'habite, je suis quand même assez urbaine à la base. Je fais comment pour aller voir les oiseaux, les petites fleurs? Je l'ai pris comme ça, cette porte d'entrée.
Et puis surtout, se reconnecter, ça veut dire qu'il faut sentir qu'on s'est déconnecté aussi.
Mais oui, enfin, c'est ça. Donc c'est un chemin là encore très intime. Donc c'est une enquête assez intime, mais qui essaye de faire le lien entre ses écrits, ses ouvrages, ces choses qu'on entend. Donc c'est quoi entendre cet appel et qu'est-ce qu'on peut faire pour donc en fait je raconte comment moi j'ai vécu ça par l'écoute, par l'observation, par le ressenti, mais j'explique aussi ce qui peut basculer en moi, ce qui bascule chez les gens en tout cas. Et donc il y a deux jambes dans cette enquête, il y a le sensible et le savant, et j'essaye de tisser ça sans tomber dans le développement personnel, sans tomber dans le new age, mais expliquer par des rencontres, des reportages, des interviews et des rapports scientifiques pour faire le lien entre ce qu'on peut ressentir quand on comprend qu'on fait vraiment partie de cette nature entre guillemets du vivant, et que du coup ce qui pose problème politiquement, c'est quand on ne comprend pas qu'une zoonose arrive aussi de par nos modes de développement, que l'urbanisation et le béton à gogo c'est plus viable. Qu'il y a plein de sujets comme ça à remettre en cause, mais fondamentalement, et que l'adaptation, et en plus le rapport du GIEC le rappelait lundi, il faut absolument préserver cette biodiversité parce qu'elle fait partie de la solution. Et on a des chercheurs en Nouvelle-Aquitaine qui, comme Vincent Bretagnol, je conclue le livre avec lui, qui dit en fait le vivant est un sujet encore plus important que celui que le climat, parce qu'en fait c'est la solution repose sur le vivant. C'est-à-dire qu'on ne s'en sortira pas si on continue comme ça de saccager en fait la meilleure machine qu'on ait pour absorber le CO2 et pour nous permettre de survivre. Et avec ce livre en fait il y a quelque chose d'intimement politique que j'aimerais essayer de faire passer, mais forcément l'écriture passe aussi par un jeu narratif où je donne un peu de moi dans l'intime, de mes réflexions personnelles, mais pour aussi insuffler de l'information. Donc c'est un exercice un peu nouveau que je n'ai pas trop fait, et j'espère que ça plaira aux lecteurs et aux lectrices.
Complètement, mais j'ai l'impression que ça mélange de plein de choses aussi, donc c'est ça qui est intéressant.
Dans la vie, j'ai toujours avancé d'un sujet à l'autre, en fait, à prendre les choses comme elles se présentent, et il y a toujours un fil, c'est des explorations, j'aime bien parler de ça. Et ces explorations, je me sens riche et chanceuse à chaque fois de pouvoir avoir ce temps-là. On verra.
et pour en parler aussi, il y a un lien avec tout ça. Les médias, le monde et nous, et les médias, le monde et moi.
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît?
Alors ça, c'était l'enquête d'avant et qui était née justement de Place to Be, de cette expérience au moment de la COP21 et un peu avant. C'est-à-dire que quand on est journaliste sur ces sujets, soit on est traité de bisounours, soit on est traité de journaliste militant, soit on est traité d'ayatollah vert. C'est très compliqué. Hein. Denis Chessou à France Inter disait pendant longtemps, j'étais la dernière porte, dernier bureau à droite, au fond du couloir. Dans les rédactions, c'est pas une culture, l'environnement. C'est pas aussi sexy que la politique ou l'international ou l'information économique. Alors, les choses changent doucement. Comme je te disais, maintenant, depuis 2 ans, j'enseigne en école de journalisme à Bordeaux, à Paris, un peu partout. Et je suis heureuse de faire ça parce que je sens que les jeunes générations ont envie d'y aller. Mais je ne veux pas former que des journalistes spécialisés. Je pense que, quelle que soit la spécialité qu'on veut embrasser plus tard, il faut regarder l'actualité avec ces fondamentaux en tête, ce prisme-là de comment est-ce qu'on fait une économie et une société qui est adaptée aux enjeux du siècle. Et ça, ce n'est pas pensé aujourd'hui. Alors, autant les hommes et les femmes politiques ne le pensent pas assez, en tout cas ceux qui sont aux manettes, mais dans les rédactions, la grille de lecture reste encore trop centrée par des questions d'économie et des enjeux qui ne sont pas prioritaires, en tout cas à mes yeux, mais aux yeux de tous les scientifiques du GIEC diront la même chose. Et c'est bien ça qui pêche aujourd'hui. Et donc, je suis partie de cette question pour cette enquête sur les médias et j'ai passé 4 ans. Alors en faisant d'autres choses à côté, c'est pour ça que ça a pris 4 ans aussi, mais quand je rencontre Stéphane Paoli, qui est une ancienne voix de France Inter, qui a longtemps animé la matinale, notamment au moment des attentats du 11 septembre, je crois, et qui avait animé d'autres émissions après, je me dis en fait, là où je voulais faire un livre, quand je rencontre des journalistes comme lui qui sont tellement convaincus et engagés, il faut que je donne à voir ça. Parce que les gens s'en foutent de leur rapport à l'info. Enfin, ils font pas attention ou ils vont rejeter les médias dans un seul et même sac qu'ils vont jeter bien loin. Parce qu'ils estiment qu'ils sont tous pareils. Et je me suis dit, ben, j'ai envie de donner à voir autre chose de notre profession et montrer que c'est pas que ces espèces de marionnettes qu'on imagine être aux mains des actionnaires qui possèdent leurs médias. C'est pas que ça, en fait, le journalisme. Et fondamentalement, il y a plein de gens qui se battent pour faire avancer ces valeurs ou d'autres manières de faire. Et en fait, le film donc, est sorti en mars 2019. J'ai sorti le livre un peu plus tard parce qu'il y avait quand même le fruit de toutes mes recherches. Donc, c'est un gros beau pavé. voilà. Et on a fait un tour de France avec ce livre. Ouais. Je fais beaucoup d'éducation aux médias. J'interviens dans les primaires. On a dessiné aussi une carte du paysage médiatique français. Enfin, j'ai essayé de diversifier les supports pour que les gens comprennent que c'est comme notre rapport à l'alimentation. On s'est rendu compte dans les années 80 qu'il y avait un problème de malbouffe. Et là, on est en train de se rendre compte depuis 6-7 ans qu'il y a un problème de malinformation. Et ce problème-là va se résoudre parce que les journalistes font des efforts et que les rédactions vont essayer de changer à l'intérieur, mais aussi parce que le public qui consomme cette information-là va changer ses habitudes. C'est une relation de confiance qui doit être un peu retissée. Ouais. Donc voilà, donc ça aborde un peu tout ça. Ouais. Mais voilà, ça m'a apporté. Et puis du coup, maintenant, j'ai aussi des engagements associatifs que j'ai envie de faire perdurer sur ces sujets parce que c'est crucial de les faire avancer. Ouais. Il y a une petite ligne de crête sur laquelle il faut se positionner. Là.
Exactement. Et alors moi, je me demande comment tu fais, parce qu'à la fois, tu le disais, les Ayatollah verts ou ce côté écologiste, ils ne sont pas forcément toujours entendus. Et puis le côté journaliste, tu fais quand même tu fais un combo des deux. Parce que même si je crois que le métier de journaliste, j'en parlais parce que j'avais reçu Jean Berthelot de l'Anglété aussi sur ce podcast, il disait que c'est le métier de journaliste, beaucoup de jeunes veulent le faire, mais après pourtant c'est un des métiers qui est peut-être le moins aimé, je crois, au bout d'un moment.
On est aussi peu aimé, enfin, en tout cas il y a une défiance à l'égard de notre métier qui est aussi importante que celle à l'égard des banquiers et des politiques.
Ouais.
Donc voilà, il y a un niveau de défiance vis-à-vis des médias qui est terrible, mais ouais. Ça ne change pas, ça a toujours été bas, alors que ça se casse la figure sur d'autres institutions.
Okay.
Donc nous, ça fluctue, mais c'est historiquement bas. Cette défiance existe depuis que les médias et le journalisme existent, même voilà, des Diderot ou détester les journalistes, il y a de la concurrence. Non. Donc, en revanche, ça ne nous empêche pas de bien faire notre travail. Donc moi, les premières préconisations que j'ai, à laquelle j'étais arrivée dans mon enquête, c'était de dire, attention, il faut vraiment qu'on renoue avec les fondamentaux de notre métier. Et à une heure où il y a de la fake news de partout, qui mieux qu'un journaliste peut aider les gens à y voir clair dans l'information, parce que notre métier à la base est de vérifier les faits. Donc on a un rôle dans cette société à jouer, alors qu'il y a de l'information qui jaillit de partout, et c'est très bien. Mais il faut absolument qu'on puisse aider les gens à y voir clair. En ce qui est du traitement, on va dire... j'aime pas ce mot militant, mais c'est marrant, les étudiants, c'est toujours une des premières questions qu'ils me posent. Ils me disent, mais quand on parle de ces sujets, est-ce qu'on est militant? En fait, c'est une idée reçue. C'est-à-dire que quand j'entends Dominique Seux le matin sur France Inter, lui aussi est militant d'une certaine vision de l'économie. Et c'est l'économiste qui parle, là. C'est-à-dire que voilà, il y a différentes tendances dans l'économie, différentes façons de la concevoir, et nous avons un récit économique dominant. Il est possible d'en avoir un autre basé sur des valeurs de transition, de sobriété, de prospérité plutôt que de croissance, d'autres indicateurs de richesse, etc. Et donc, dire ça, c'est pas être militant, ou alors si militant, c'est œuvrer dans le bon sens. Ok, moi ça me va. Si j'œuvre au service de l'intérêt général et qu'on considère que c'est du journalisme militant, pas de problème. voilà. Mais c'est important de pas avoir l'impression qu'on fait du mauvais journalisme, parce que quelqu'un comme Marie-Monique Robin, qui dénonce les OGM contre Monsanto, on aurait pu la stigmatiser de journaliste militante. En fait, factuellement, il n'y avait rien à lui dire, tout ce qu'elle dit est exact. Donc quand on fait bien notre boulot, qu'on base bien les sources, etc., c'est pas une histoire d'idéologie, en tout cas.
Il y a des moments où tu t'es dit, j'ai mal fait mon taf?
Je suis plutôt perfectionniste dans la vie, donc je suis jamais... toujours satisfaite, en fait. Les livres que j'ai écrits, ils continuent toujours de s'écrire dans ma tête. les enquêtes qu'on fait, à un moment, il faut, pour des raisons de place, pour des raisons de... Donc, je me pose toujours 36 questions. Est-ce que j'aurais pas dû insister là-dessus? Est-ce que j'ai pas assez parlé de ça? Est-ce que l'exhaustivité, en fait, m'habite? Mais ça, c'est un défaut, je pense, de chercheuse, mais ça me quittera pas. J'ai du mal à pas avoir la sensation d'être allée au fond d'un sujet.
Ouais.
Mais il faut qu'on se remette en cause. Et quand on se trompe, il faut le dire.
Ouais.
Moi, j'ai aucun souci à me dire « Ah, t'as raison. Là, j'ai été trop loin. » Ou là, oh, peut-être qu'en effet, je me suis trompée. Enfin, avoir cette humilité-là, pour moi, est cruciale. On en manque. Alors, je ne vais pas défleurer en disant ça, mais je pense que parfois, ça permet aussi d'apaiser le débat, de dire « Bah oui, j'avais cette opinion, je me suis trompée. » Ou « J'ai essayé d'aller contre ce que je pensais, je n'ai pas forcément réussi, mais là, j'ai compris. » Il faut laisser du temps, et c'est aussi une façon d'être tolérant vis-à-vis des autres. Parce que sur certains sujets de société, parfois, c'est difficile de se faire un avis, une opinion, et à une heure où parfois les gens ils se jugent très très vite avec des réactions de ghosting ou de blacklisting ou je ne sais quoi, je trouve ça dur, parce qu'en fait si on coupe ces liens sociaux et cette façon de se parler et d'échanger sous prétexte qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, je trouve que ça devient dangereux, et ça faut vraiment le préserver aussi.
Complètement. Pourquoi le, par exemple, enfin, alors le GIEC en ce moment, il y a une autre actualité un peu chaude, on va dire, qu'à le dire. Mais pourquoi tout ça, ça ne fait pas plus la une, en fait, tout ce qui est lié au climat, ça ne fait pas plus la une des journaux? Est-ce que toi, tu arrives à l'expliquer? Et alors, in fine, pourquoi les politiques ne prennent pas plus le sujet à bras-le-corps? Alors, il y a beaucoup de choses, hein, je pense que la réponse est peut-être sans cela. Mais comme tout le monde sait que c'est urgent, quoi.
Sur la couverture médiatique de ces questions...
Est-ce que c'est juste parce que ça ne vend pas, quoi, dans ce cas-là,
Ouais, c'est ce qu'on a dit pendant longtemps. On a dit le climat, attention, c'est anxiogène, attention, les gens s'en fichent. Et en même temps, là, on a une guerre, on a des... Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. En fait, tout simplement, si on leur explique bien les choses, qu'on explique les bonnes histoires aussi, parce qu'il y a des façons de raconter les choses... des fois ça fait mouche, et je sais qu'on peut changer le destin de certaines personnes quand on fait bien ce métier, et c'est ça qui me plaît aussi. Moi, il n'y a rien de tel qu'un retour de lecteur ou de lectrice qui me dit ah là là, je t'ai lu ou je t'ai entendu, et en fait ça m'a permis de rencontrer une vraie histoire, hein, ma collaboratrice, et ce rôle là de passeur d'information, il est crucial. Après, un journaliste dans une rédaction, il n'a pas les mains libres, il a un rédacteur en chef, il a une équipe autour de lui, il a des gens au-dessus. Et parfois, il faut se battre dans une rédac pour faire la une sur un sujet. Donc là, je voyais hier soir ou avant-hier, il y a un réseau qui s'est mis en place qui s'appelle Climat Média, qui scrute justement avec une fille notamment qui bosse au CNRS, le traitement médiatique. Alors, en se basant sur ce qui passe au JT de 13h et de 20h sur quelques chaînes télé. Moi je peux passer mon temps à crier sur BFM et CNews parce que c'est vraiment nul ce qu'ils font, c'est pas une généralité, mais voilà, sur ces sujets là en tout cas il y a un traitement qui est pas suffisant. Mais est-ce que je crois pour autant que ça va évoluer un jour, en fait? Est-ce que c'est là que je dois positionner mon combat? Et en fait, quand on regarde ce qui se fait à la radio, quand on regarde ce qui se fait dans d'autres médias, la couverture de ces sujets a quand même grandement évolué. Il y a des newsletters qui n'existaient pas avant, il y a des pages dédiées qui n'existaient pas avant. Donc quand je regarde, moi, quand j'ai commencé et maintenant, je vois qu'il y a quand même une petite différence. Après, c'est largement insuffisant. Donc il faut continuer, en effet, à former. Il y a des journalistes qui forment d'autres rédactions aujourd'hui à la couverture de ces enjeux. Il y a quand même une nouvelle génération qui arrive aussi aux manettes, qui est animée par ça, et je pense que ça va évoluer. Après, il ne faut pas hésiter, et c'est ce que disait Climat Média à juste titre, c'est il faut contacter les responsables de ces chaînes, les médiateurs, pour leur dire, écoutez, nous, on est scandalisés que vous n'insistiez pas plus là-dessus. Et en discuter avec eux, parce qu'il y a parfois des explications simples. Voilà, là, en ce moment, il y a une guerre. C'est quand même un événement qui n'est pas arrivé depuis
70 ans.
Voilà, et du coup, les gens sont inquiets, en fait, vraiment de ça. Alors, c'est vrai que ça pose la question, c'est-à-dire que quand on s'intéresse aux questions de climat, moi, c'est le sujet prioritaire. Et que si, justement, on avait intégré ces préoccupations en termes d'énergie, de ressources, on aurait peut-être moins de dépendance, géostratégiquement avec d'autres pays, et on aurait peut-être plus de liberté d'agir différemment. Et là, c'est un jeu de... Je vois ça comme un jeu de Mikado, en fait, ce qui est en train de se passer. On se tient la barbichette, comme dirait l'autre. Et c'est très... ça pose plein de questions. Et on retombe sur cette question des conflits, du terrorisme et des éléments qui sont tirés par des questions de ressources et d'environnement. Ouais. Je pense que tout est lié, en fait. Mais cette grande, comment dirait, la big picture, la grande image, parfois, bah, elle n'est pas utile pour agir sur le court terme. Ouais. Et ça a été le malheur de ces questions de traitement médiatique de ces sujets, c'est qu'on est dans un éternel recommencement. Quand il y a des youtubeurs ou des gens qui se sont emparés de ces sujets récemment, bah, j'ai l'impression qu'ils font les mêmes contenus que ce qu'on faisait il y a 10 ans et 20 ans. Alors, on était moins nombreux à le faire, mais on ne réinvente pas, en fait. Les solutions, elles existent depuis longtemps. Mmh. Sauf que là, maintenant, on a un créneau d'action et une fenêtre de tir qui se réduit énormément. Donc, l'urgence politique, elle est encore plus importante. Donc, il ne faut vraiment pas lâcher. Des fois, c'est certain, hein, aujourd'hui, commence peut-être un peu à faire marche arrière en se disant « Bon, bah, maintenant, j'ai accepté qu'on ne pouvait pas. » Je ne crois pas, en fait. Je pense qu'il faut persévérer. Je crois que c'est François Gémen, le climatologue, là, on s'est entretenu avec lui pour Vert récemment. Il disait, regardez, le combat des Noirs aux États-Unis, ils n'ont pas attendu de convaincre toute la population pour agir. Mmh. Ils ont réussi à cibler, à convaincre une partie de la population et à faire la bascule. Et bah, tout l'enjeu, c'est ça, c'est d'opérer cette bascule aujourd'hui. Donc les journalistes, à côté de plein d'autres personnes qui, à leur niveau, peuvent aussi engendrer ce mouvement.
Complètement. Et il y en a de plus en plus.
Et puis là, il y a une grosse marche climat le 12 mars. Enfin, il y a pas mal d'événements à suivre, de mobilisation. J'ai jamais vu autant de rapports, de préconisations. Même la CFDT là, a publié un rapport ce matin sur la sobriété et les moyens d'atteindre la transition écologique. Donc ça, c'est un peu inédit. Il n'y en avait jamais eu autant avant. Donc voilà, j'essaie de regarder ça, ça me rassure. Ces faits-là, relativement à ce qui se passait auparavant, me font dire que les efforts ne sont pas nuls. Maintenant, c'est l'insuffisance qu'il faut arriver à un combat résoudre.
Ouais. Et donc, c'est ça ton combat ?
Je ne sais pas si j'ai un combat. En tout cas, j'ai des convictions qui m'animent, qui font que voilà, c'est un peu ma boussole. Voilà. Et même quand les temps sont durs, c'est le cap que j'essaie de garder. Il faut parfois prendre du temps pour soi, pour se préserver aussi, parce que ce n'est pas facile. Hein. Je veux dire, on n'est pas intranquille ni insensible quand on est journaliste. Qu'on doit informer, ça veut dire qu'il faut aussi digérer l'information, qu'il faut prendre sur soi, puis j'ai des enfants, forcément je leur en parle, là cette nuit j'ai fait des cauchemars autour de la guerre, enfin je me suis dit ça y est, mon inconscient est en train d'intégrer quand même une guerre qui se passe, et qu'est-ce qu'on peut faire, quelle impuissance, et les pauvres gens quoi, je me suis mise à leur place, à me dire mais comment est-ce qu'on réagirait, enfin ça me terrifie, voilà, je pense que c'est un devoir que je me suis donné que d'être au service de ça. Mais voilà, je ne suis pas une sauveuse et je ne suis pas la seule. Et c'est heureusement, il faut des légions. Voilà, je ne veux surtout pas avoir ce rôle parce que sinon après...
C'est épuisant.
Voilà, ce n'est pas la bonne posture. Donc en tout cas, moi, c'est ça qui m'anime, on va dire. Et je fais mon possible et c'est une petite brique parmi d'autres. Et c'est déjà, je pense, pas mal.
Ouais, on revient sur les colibris.
Je fais au mieux.
On revient sur les colibris dont tu parlais un peu tout
à l'heure. Oui, moi qui se sont fait attaquer. Hein, parce que c'est... Ouais. Certains entendent mal cette histoire de colibri en pensant qu'on dit à chacun d'agir au niveau individuel, mais là encore, même le rapport du Shift Jean-Marc Jancovici ou même les recommandations d'autres rapports disent que faire sa part, c'est à tout niveau, c'est-à-dire que et l'entreprise doit faire sa part. Quand elle fait sa part, ça fait un effet levier différent.
Bah, si toutes les entreprises faisaient leur part, peut-être que les politiques s'y mettraient
aussi. C'est ça, et puis c'est bien qu'il y a d'avoir des fous qui parfois, de manière individuelle, se mettent à danser, ça en amène d'autres derrière. Ouais.
Et justement, tu l'as dit, parce que donc, ce matin tu regardais l'actualité, mais comment toi tu t'informes ?
Oh là là, c'est...
Parce que c'est une vaste question, parce que moi je me suis posé la question, j'allais te demander comment proposer aux gens de s'informer et quels médias lire ou regarder, mais comment toi, en tant que journaliste, tu t'informes ?
Depuis toute petite, j'écoute la radio le matin. Okay. Bon, c'est France Inter, c'était France Inter quand j'étais petite. Des fois, ils me font râler. Je trouve que voilà, ça me plaît pas toujours, mais bon, des fois je change, mais non, je me réveille avec ces infos. C'est peut-être le seul moment de la journée où je suis branchée sur l'actu en continu. Mmh. Après, je me suis créée depuis le temps des listes de veille avec des outils qui me permettent de scanner comme ça. Mmh. Puis je suis abonnée à plusieurs médias. Voilà. Mais quand je travaille, je suis pas en intraveineuse de réseaux sociaux ou autre, je bloque exprès, ce qui fait que parfois, Et puis j'ai pris la distance avec les réseaux sociaux là en fin d'année dernière. J'en avais un peu marre. Il y avait un climat assez délétère et cette violence me fait mal en fait. Je trouve que les gens parfois sont pas sympas. Enfin pas sympas entre eux. Sont durs entre eux et qu'on pourrait apporter plus de douceur et d'échange. Je crois moi beaucoup au rôle du journaliste médiateur. Quand il y a un problème, parlons-en, quoi. On s'appelle, on a un désaccord. Ça fait pas de toi un ennemi. C'est pas de toi un adversaire non plus. Et même si on n'a pas les mêmes idées, je pense qu'on peut avoir des terrains d'entente. J'ose croire en ça encore aujourd'hui, mais voilà. Et donc du coup, je regarde pas beaucoup la télé, même très rarement. Un petit peu Netflix de temps en temps. Mais j'ai pas le temps, en fait. Je suis souvent en train je bouquine beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, pour le coup. Puis c'est très varié. En tout cas, j'essaye d'avoir un scan assez... Mais je suis pas du tout un modèle, parce qu'il y a trop de sources d'infos. Et c'est pour ça que quand j'ai mes étudiants, ce matin, je les ai fait bosser là-dessus. C'est dessiner votre paysage informationnel et réfléchissez, donc c'est marrant.
Ok. Et tu parles de Netflix, tu as regardé Don't Look Up ?
Bien sûr, ouais. Oui, on l'a regardé à Noël. on l'a regardé à Noël.
Okay.
J'ai beaucoup aimé, forcément. Enfin, c'est chouette quand on a des films comme ça qui arrivent à mettre le doigt avec humour sur une problématique. Moi, mon rêve a toujours été d'avoir une espèce d'auberge espagnole, enfin un clapiche sur ces questions de mode de vie écolo. Parce qu'il y a plein de situations très drôles. Et je me disais qu'un clapiche avec ces situations de vie liées à des problématiques écologiques, de relations interpersonnelles, de bagarres, et j'ai pas vu encore de format comme ça.
Okay.
J'ai pas en tête, mais je me dis un film qui aurait autant de succès que L'Auberge espagnole à l'époque sur ces questionnements-là, ça serait pas mal.
Ça pourrait être pas
mal.
Ouais.
Mais sans stigmatiser l'écolo, au contraire, en lui donnant une belle part, ça renverserait un peu le regard.
Parce que oui, dans tout ce que tu fais, dans toutes tes activités, effectivement, j'imagine que tu découvres plein de ce qu'on appelle les tiers-lieux, et des endroits et des personnes aussi qui font les choses différemment. C'est possible de faire différemment ? Je pose la question, voilà, mais...
Il y en a plein. Après, il y a plein de manières de faire aussi.
Ouais.
C'est pas l'écologie, c'est pas que la décroissance, c'est pas que les éco-gestes, c'est pas que le militantisme, c'est un peu de tout ça.
Moi, j'avais beaucoup. T'as un site internet, si je ne m'abuse, qui s'appelle de moins en mieux.
De moins en mieux, ouais.
Ce que je trouve. Enfin, c'est très joli, c'est bien trouvé pour le coup.
Ah oui,
parce
il y a longtemps.
Ouais.
Et au quotidien, je rencontre des gens qui ont un profil d'ingénieur, qui ont eu leur. Ou de financiers qui ont eu leur espèce de coming out écolo et qui du jour au lendemain vont changer. Il y a ceux qui vont changer de vie, qui vont aller beaucoup dans le développement personnel pour d'autres. Il y en a qui vont aller vers la décroissance. Enfin, j'ai fait un tour de France des écolieux avec deux autres journalistes il y a 2 ans. Et c'était très riche d'aller dans des lieux justement où des gens se sont regroupés pour essayer de vivre différemment, pour essayer de comprendre ce qui les anime. Pour essayer de voir comment ils se débrouillent, est-ce que c'est l'autarcie, l'autonomie, quel est le lien avec le voisinage, avec le territoire, comment ça se passe, est-ce que c'est vraiment une solution et j'en reparle dans mon livre La L'Enquête Sauvage, parce que ça peut être tentant parfois de se dire je vais me soustraire du monde pour vivre en n'émettant que 2 tonnes de CO2. Mais est-ce que ça permet à tout le monde d'agir de cette manière-là ? Est-ce que c'est vraiment la solution ? Il en faut, mais si tout le monde fait ça, c'est pas non plus résoudre le problème. Donc c'est pour ça que c'est cette complexité-là de dire et comment est-ce qu'on fait pour que chacun soit amené à le faire à la hauteur de ce qu'il aimait. Donc que ça soit juste, vraiment proportionnel, cette question est très importante. Les inégalités n'aident pas du tout à résoudre cette question.
Ouais. Tu l'as dit, je trouve qu'il y a beaucoup d'optimisme aussi dans ce que tu dis, malgré tout, mais dans cette façon de voir les choses avec douceur, comme tu l'as dit, c'est effectivement, je crois qu'on doit tendre vers ça, et on peut tendre vers ça. Mais est-ce qu'il y a des moments où est-ce que toi, tu arrives à trouver un équilibre ? Parce que je me dis, en fait, je vois, quand on voit les rapports du GIEC, il y a plein de choses qui sont alarmantes. Et pour des personnes qui se renseignent, mais qui n'ont pas non plus autant de connaissances que quelqu'un comme toi, pour le coup, on pourrait se dire, ça part complètement en cacahuète. Et c'est hyper anxiogène aussi. Parce que j'ai pas lu le rapport, mais j'en ai vu un tout petit peu passer et ça fait pas rêver. Comment tu arrives à te ressourcer, en fait, ou prendre du recul par rapport à ça, si tu arrives à en reprendre ?
Je pense qu'il y a une forme d'habitude. Au tout début, j'ai eu des moments de... J'en parle d'ailleurs dans le bouquin, en 2006-2007, des semaines où j'étais en PLS, suite à un documentaire ou des choses qu'on vit dans ces tripes, quoi. Mmh. À se dire, on est fichu. J'ai dit à mon chéri, je veux pas d'enfant. Enfin, c'était vraiment, on n'en avait pas encore à l'époque. Et voilà. Et en fait, je pense qu'il y a une courbe de deuil, de déconstruction à faire. Mmh. Un autre regard à porter, mais ça doit pas geler l'action.
Ouais.
Et voilà. Et maintenant, on a deux enfants, on continue d'agir. Et je suis toujours aussi inquiète, mais je le vis pas différemment. Enfin, je le vis, pardon, le fils. Je le vis différemment. Voilà, non. Enfin, il faut accueillir en fait ces moments de tristesse, ces moments où on est abattu. Il faut savoir aussi faire la fête. Ça, c'est. Faut savoir aussi avoir des soupapes de décompression. Faut se préserver. Il faut faire d'autres choses aussi. Moi, à un moment, j'étais trop là-dedans. En fait, je dis, mais je suis dans un verre là. Et en fait, je suis dans mon petit prisme avec mes. Voilà, ces considérations écolo et de temps en temps faire des choses qui sont très loin de tout ça. C'est je sais plus à qui j'en parlais récemment, mais on se disait, mais il y a des gens qui sont complètement insouciants. Et est-ce qu'il ne faut pas des fois être un peu jaloux de cette insouciance parce qu'en fait, ils vivent avec d'autres soucis, mais qui sont peut-être moins lourds à porter, et sans comparaison aucune. Hein, chacun a ses problèmes. Mais cet intérêt pour la marche du monde et cette inquiétude qui nous dépasse, c'est vrai que c'est un peu un fardeau, mais... il est rare les moments où on se sent soulagé, léger. J'avoue que voilà, il y a des, c'est comme ces sinusoïdales avec des phases de haut et de bas. Voilà, ouais, c'est, on s'y fait.
Ouais. Ouais. Pour le coup, dans tout ce que tu fais, t'entreprends très clairement.
Oui.
Et j'ai beaucoup aimé aussi. T'as dit une phrase avec le temps, quand on se plante, eh bien on pousse.
Oui, c'est une non bouddhiste.
Cool. Ouais. Je l'avais jamais entendue celle-ci et je la trouve très parlante.
Après ma thèse, j'avais été me ressourcer un peu comme ça à faire de la méditation. Et elle sort cette phrase et je me dis, mais c'est parfait, c'est exactement ça dans la vie. On a le droit à l'erreur, on a le droit d'apprendre, on a le droit de tomber, et c'est pas mal pour autant, ça a fait grandir. Et cette phrase m'accompagne souvent parce qu'en fait, moi qui aime semer des idées, etc., pour pousser, pour transmettre, pour polliniser, c'est aussi une phrase qui m'anime parce que parfois, on fait des erreurs et ça arrive à tout le monde, c'est humain. Et se dire que ça peut donner naissance à autre chose ou que ça peut faire pousser dans un autre sens, ça me plaît bien. Et bienvenue à tous ceux qui ne comprennent pas encore ces questions d'écologie, plus avec nous.
Complètement, complètement. Mais pour le coup, parce que c'était dans le cadre aussi, ça m'a fait penser à l'hebdomadaire que tu avais créé avec d'autres personnes, qui s'appelait Hebdo, sans H, qui pour le coup a fonctionné quelques mois et au bout d'un moment s'est arrêté.
C'est une histoire que je raconte dans le film, là, Les médias, le monde et moi. Alors j'avais participé à l'équipe de réflexion, après j'ai été journaliste, tout petit mi-temps dans l'équipe depuis Bordeaux. Et ça s'est bien scratché, alors pour plein de raisons. entrepreneuriales, managériales, beaucoup de gourmandise, d'assurance et de manque de vision commune. Mmh. En fait, bizarrement, il y avait un noyau dur qui avait une vision commune, mais quand ils ont commencé à recruter, il n'y avait pas d'accord réel. Et puis, voilà, comme disait Laurent Beccaria, on a voulu faire un gâteau avec tous les meilleurs ingrédients du monde, mais ce n'est pas ça qui fait le meilleur gâteau du monde. Et puis, voilà, il y a peut-être le sujet de l'affaire Hulot qui est sorti aussi à un moment où la société... on a eu le dénouement avec envoyé spécial Élise Lucet. C'est quelque chose qui a bousculé aussi le média. Mais... c'est pas l'affaire Hulot qui a coulé le média. Le média avait commencé à se casser la figure avant, mais ça a juste précipité sa chute. Et du coup, je pense que maintenant, je vois bien aussi les do's and don'ts quand on monte un média. Moi, j'aime bien avancer petit, doucement. L'école Eric Fotorino qui m'a appris ça. Monter un média avec humilité. Pas à pas, une communauté qu'on fait grossir petit à petit, on continue d'être sérieux, de bien travailler, on cherche pas à être les meilleurs ou les plus lus, c'est pas les bons critères.
Ouais, on fait ça proprement, puis ça viendra petit à petit.
Exactement, si on fait bien son travail, j'ai confiance en ça.
Ouais, on est bien d'accord. Alors j'ai aussi envie de rapidement parler de Disclose.ngo, est-ce que tu peux, parce que tu as créé ça aussi en 2018.
Oui, alors c'est Geoffrey... C'est beaucoup Geoffrey Livolzi et Mathias Destal qui ouais. ont lancé cette dynamique de créer le premier média d'investigation français porté par une ONG. Ouais. Alors, on a une boîte de production aussi à côté, mais en toute indépendance. C'est-à-dire qu'on a un financement qui est assuré majoritairement par des individus comme toi et moi. Par des gens. On a quelques fondations aussi qui nous aident et on est très strict dans notre mode de fonctionnement. Et l'idée, c'est de sortir des enquêtes. On va prendre plusieurs mois pour les faire. On se donne vraiment le temps de l'enquête avec des pigistes, un réseau de journalistes qui peuvent nous faire des propositions. Et quand on sort une enquête, on la sort avec différents médias, sous condition qu'ils laissent un accès libre et gratuit aux enquêtes que l'on fait. Et l'idée, c'était aussi, par notre approche, promouvoir un journalisme de solution et d'éduquer les gens à la bonne information, à la bonne investigation, de leur montrer comment ils peuvent eux-mêmes lancer des enquêtes à côté de chez eux sur des sujets de société. Donc, quand ils m'ont proposé, j'ai accepté tout de suite parce que je trouve que c'est trop important aujourd'hui d'avoir ce type de support comme Disclose. Et on a sorti des enquêtes sur la vente d'armes de la France à l'Égypte, sur les violences sexuelles dans le sport, sur Lactalis et les pollutions de l'eau liées à certaines de leurs usines. Voilà, ça n'arrête pas. C'est pas des sujets faciles, c'est pas des sujets marrants. On a aussi parlé de la déforestation en Amazonie. Voilà, mais on essaye là encore, c'est dans la façon de délivrer l'information, à chaque fois d'avoir un support. Quand vous allez sur le site de disclose.ngo, on travaille avec Upian notamment à mettre en scène l'information de manière esthétique. On va dire il y a des influences liées au web documentaire, à l'infographie, la mise en scène de l'information est très importante. Et on sait que nos lecteurs, même sur les enquêtes, sont vraiment importantes et grosses, vont prendre le temps de les lire. Voilà, en plus de regarder ce qui est fourni par d'autres de nos médias partenaires.
Ouais, complètement. Tu aurais quoi comme conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent? Et parce que pour le coup, toi, vivre du journalisme, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Alors, des conseils aussi bien généraux ou là spécifiques pour les personnes qui ont envie de faire ce métier, ou en tout cas ce type de métier, où on se dit au départ, c'est pas évident de gagner sa vie avec ça. Et t'es la preuve que c'est possible.
Oui, alors je gagne pas bien ma vie.
Oui, ça, bah, oui, bah après, qu'est-ce que c'est bien gagner sa vie?
Voilà. Qu'est-ce qu'on met derrière? En fait, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, en tout cas, je leur dis, moi j'ai choisi d'être freelance parce que je tiens à ma liberté et à mon organisation du temps. C'est très important pour moi. Voilà, j'ai cette possibilité-là qui m'est donnée. Je viens d'une classe sociale, on va dire moyenne, mais où mes parents nous ont toujours donné les moyens avec mon frère de faire des études, etc. Et ça, je sais que c'est une chance dans la vie, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc on a tous un rapport à l'argent qui est différent et des obligations sociales, économiques différentes. Donc je leur demande de se poser la question, mais vraiment pragmatiquement, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Si vous avez besoin d'être rassuré par un cadre et un salaire et quelque chose qui tombe tous les mois sans vous galérer à aller chercher des piges, à faire toc-toc et à faire un peu Tarzan qui va d'une corde à l'autre parce qu'à un moment il faut qu'il lâche un contrat ou il y a quelque chose. Moi c'est ce qui allait m'arriver là en début d'année, je savais pas trop en fait. Et donc j'étais inquiète et en même temps j'accepte en me disant bon bah j'ai choisi ça et je m'y suis fait depuis le temps. Mais voilà, j'avais confiance sur l'idée qu'il allait arriver quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. Bah, si on n'est pas fait pour ça, si ça génère trop d'angoisse et de stress, bah, autant bien se connaître et se dire qu'il vaut mieux chercher autre chose et pas passer du temps à essayer quelque chose qui ne convient pas. Et sur l'argent, c'est pareil, en fait. Moi, je ne travaille pas pour gagner ma vie. Voilà, j'ai juste besoin d'assurer voilà, les dépenses que j'ai, mais je ne cherche pas à m'enrichir autre mesure ou autre. Ouais. Et donc, du coup, je ne me suis pas fixé des exigences. Je sais que d'autres vont dire, moi, j'ai besoin de bien gagner ma vie parce que dans mes objectifs, c'est ça, ça, ça. OK. Bon, généralement, quand on est écolo, on essaye de diminuer ses dépenses, on essaye de faire durer les objets, on essaye d'acheter de seconde main. Donc, du coup, voilà, à part la nourriture qui, parfois en bio, est parfois un peu plus chère, et là, il y a des tensions sur les marchés. Ouais. Et encore, quand on s'arrange, qu'on connaît bien ces réseaux, je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément plus cher. Et ben, on trouve des moyens. Donc, ça demande du temps. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, j'aime bien parler de ça avec les étudiants parce que c'est important de pas oublier ça. Mais on est tous différents, donc il y a pas de. Il faut surtout qu'ils s'écoutent eux dans ce qu'ils ont envie de faire. C'est le plus important. Sinon, on tient pas.
Complètement. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou quelque chose que tu n'as pas abordé? Tu dis ça pourrait être cool. Parce qu'on aurait pu parler encore pendant des heures. Parce que tu as fait vraiment plein de choses géniales.
Les auditeurs et les auditrices.
Non, mais parce que tu as été chroniqueuse à la télé, tu as bossé pour des émissions. Enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles j'invite tout le monde à aller regarder. Rien que ton profil LinkedIn, il y a plein de choses dessus et on trouvera tous les liens. Mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose pour terminer cet échange sur lequel.
Bah non, je crois qu'on a fait le tour, puis voilà, merci à toi.
Bah, merci, et puis, merci beaucoup.
Le livre L'Enquête Sauvage, si je peux juste le dire, sera présenté à Bordeaux au Musée des Arts Déco et du Design le 17 mars à 19h.
Ça c'est bon, normalement l'épisode sortira.
Voilà, donc s'il est sorti, venez, on pourra trinquer et je serai heureuse de vous en parler.
Super, voilà. merci beaucoup et à très vite.
À bientôt.
Merci à tous pour votre écoute. Anne-Sophie participe avec bien d'autres à nous informer de la manière la plus juste possible. Pas évident aujourd'hui, vu le nombre de médias, de prises de parole et d'outils pour s'informer. Mais il existe encore de très bons journalistes qui vont au cœur des sujets pour nous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure, et Anne-Sophie en fait pleinement partie. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous afin qu'il soit connu par le plus grand nombre. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Pompon, et d'ici là, je vous invite à découvrir les plus de 79 autres épisodes. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, et à très vite.